Sainte-Élisée, qui est fêtée le 14 juin. Il vécut au 9e siècle avant Jésus-Christ. Élisée poursuivit la mission du saint prophète Élie en luttant contre l'impiété en Israël et en témoignant de la puissance, de la justice et de la miséricorde de Dieu. Saint Élisée est tout particulièrement honoré et vénéré par l'ordre des religieux carmes, ainsi que dans la liturgie orientale. Son histoire, l'histoire d'Élisée, se trouve dans le livre des rois de l'Ancien Testament. Saint Élisée, qui est fêté donc le 14 juin. Le nom lui-même d'Élisée a une signification en hébreu qui justifie, qui explique, qui annonce toute la carrière et la mission de celui qui, à partir du moment où, sur l'inspiration de l'Esprit-Saint, le grand prophète Élie va le choisir pour être son successeur, qui proclame ce nom d'Élisée, tout ce que va affirmer Élisée lui-même. Car ce nom d'Élisée, en hébreu, signifie « Dieu est salut ». Dieu, mais pas n'importe quel Dieu, bien évidemment. Dieu, le seul Dieu, l'unique, le béni, le tout-puissant, le Dieu esprit, le Dieu éternel, le Dieu qui s'est révélé à Israël. Jéhovah. Nom que les Israélites ne prononçaient, à juste titre, qu'avec un immense et un profond respect. Et très rarement, par respect justement. Nom mystérieux par excellence, Jéhovah, qui évoque toute la grandeur, la puissance et l'éternité, puisqu'il signifie ce nom sublime, celui qui subsiste par lui-même. Et tandis qu'Élisée, encore très jeune puis adolescent, vivait dans sa famille, une famille de cultivateurs, de laboureurs, considérés comme riches d'ailleurs, possédant de nombreux arpents, de bonnes et fertiles terres, en un lieu qui était désigné communément alors sous le nom poétique de « Près de la danse ». Tandis qu'Élisée, le cœur simple et paisible, s'en remettait jour après jour, sans angoisse, à sa destinée, s'en remettait ainsi au Tout-Puissant, à Jéhovah, sous le regard et la pensée duquel Élisée voulait et souhaitait être, tout abandonné ainsi à la si paternelle volonté de notre Père du Ciel. Tandis que ce jeune cultivateur coulait ainsi des jours heureux et confiants, il n'était pas sans connaître, sans s'intéresser, comme tous les Israélites, aux luttes vigoureuses menées par ce géant spirituel, Élie, pour tenter de détourner le roi d'Israël, l'impie Akab, le fils d'Amri, pour le détourner, ce torturé Akab, du culte des faux dieux. Akab, en effet, qui régnait alors sur Israël, était monté sur le trône en 918. Date, bien entendu, que tous ignoraient, puisque c'était celle qui séparait encore cette époque de celle où naîtrait à Bethléem de Judée le Fils de Dieu, né d'une vierge de Nazareth, la douce et pure Myriam, la très sainte Marie. Akab était le fils d'Amri. Amri avait commencé sa carrière dans les armées du roi Éla, et par sa bravoure, et l'élan qu'il savait donner à ses guerriers dans les batailles, Amri avait été nommé général, et il avait toute la confiance du roi Éla. Mais voici qu'un jour, un messager, haletant à la fois de sa course effrénée et de l'émotion de la nouvelle qu'il porte, voici qu'un messager pénètre sous la tente du général Amri et lui annonce sans embâge que le roi Héla vient d'être assassiné.